Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans cette préparation au carême. C'est déjà le dimanche de la sexagésime, 60 jours avant Pâques. Et l'Église nous demande, en ce jour, de ne pas avoir confiance en nos propres forces. C'est l'oraison du jour. Ô Dieu, qui voyez qu'aucune de nos actions ne nous inspire confiance, accordez-nous, contre toute adversité, la puissante protection d'en haut. La première condition, je crois, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est reconnaître qu'on ne peut rien sans lui. Première condition pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de pratiquer la vertu qui est le terreau de toutes les autres vertus, à savoir la vertu d'humilité. Et on peut utiliser les textes que la Sainte Église a choisis aujourd'hui pour l'Épître et l'Évangile, justement pour démontrer cela très bien. L'Épître, c'est la longue Épître de Saint Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11 et début du chapitre 12. Donc c'est toute la vie de Saint Paul. La vie de Saint Paul au service de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les croix, les tribulations. Il y a cette longue liste que Saint Paul nous donne. Il dit, j'ai souffert plus de travaux, plus de prisons, des coups sans mesure. J'ai été souvent en danger de mort. J'ai reçu des juifs 5 fois 40 coups de fouet moins un. 3 fois j'ai été battu le verre. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait 3 fois naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit au fond de la mer. J'ai été souvent en voyage, dans des périls sur les fleuves, des périls provenant des voleurs, des périls de la part de ma nation. Des périls de la part des païens, des périls dans les villes, des périls dans les déserts, des périls sur mer, des périls parmi les faux frères. Dans le travail et la fatigue, dans les veilles nombreuses, dans la faim et les soifs, dans les jeûnes nombreux, dans le froid et la nudité. Je crois que dans cette longue liste de dangers, le plus dangereux pour nous, c'est les faux frères. Les faux frères sont les faux catholiques, catholiques de façade. Ceux qui prétendent être catholiques, mais qui vont lâcher notre Seigneur Jésus-Christ au premier coup dur. C'est ce qu'on appelle les catholiques libéraux. Et catholiques libéraux, justement, c'est catholiques libéraux qui sont des gens qui essayent, si vous voulez, par tous les moyens, à la fois de plaire à notre Seigneur Jésus-Christ et de plaire, de plaire au monde. On dit que les catholiques libéraux sont ceux qui veulent marier les principes de la Révolution avec les principes de l'Église catholique. Je voudrais vous citer à ce sujet un petit texte d'un des plus grands papes de l'histoire de l'Église, le pape Pie IX. Le pape Pie IX, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, voilà ce qu'il disait sur ce sujet-là. Un groupe de catholiques français qui venaient le visiter à Rome. Je dois dire la vérité à la France, mes chers enfants. Ce qui afflige votre pays et l'empêche de mériter les bénédictions de Dieu, c'est ce mélange de principes. Vous êtes catholiques, mais individuellement. Ce que je crains pour vous en France, ce ne sont pas ces misérables de la commune, vrais démons échappés de l'enfer, c'est le libéralisme catholique. Ce système fatal, et qui rêve toujours d'accommoder 2 choses, irréconciliables, l'Église et la Révolution. Je l'ai déjà condamné, je la condamnerai encore 40 fois s'il le fallait. Donc c'est tout à fait ça, ces faux frères dont parle Saint Paul sont ceux qui cherchent à plaire à la fois au monde et à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le bon Dieu nous préserve des faux frères. Un faux frère, c'est un traître. Les traîtres sont ceux justement qui se prétendent amis de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui se veulent aussi être amis du monde. C'est Ernest Hello qui disait qu'on peut voir un mauvais catholique au fait qu'il manque d'une chose très particulière, la haine de l'erreur. Il prétend aimer l'Église catholique, il prétend aimer notre Seigneur Jésus-Christ, mais il manque en lui la haine de l'erreur. La haine des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, ça va jusque-là, mes bien chers frères. Alors que le bon Dieu nous préserve de ces faux frères dont parle saint Paul, il faut dire avec humilité à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, mon Dieu, préservez-moi dans votre armée. Par le baptême, je suis membre de votre armée. Mais je peux être un traître. Rappelez-vous la belle prière de saint Philippe Néri qui disait au Seigneur, gardez Philippe dans vos mains parce que je suis suffisamment faible que d'ici ce soir, je suis capable de me faire Mohammed tant. Certains historiens pensent qu'il disait même, d'ici ce soir, je suis capable de devenir juif, me faire juif. Il n'y a pas une seule chose qu'on puisse faire sans notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une seule trahison dans laquelle nous ne puissions tomber sans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc demandons justement à notre Seigneur Jésus-Christ de nous garder dans son armée, que nous ne soyons pas placés parmi les faux frères. Et pour nous maintenir dans cette humilité, eh bien saint Paul nous donne un exemple. Il parle de lui en fait, bien qu'il ne le dit pas expressément. Il parle de lui, il nous dit qu'il lui a été donné un aiguillon dans sa chair. Donc il a d'abord, il explique d'abord qu'il a été ravi. En fait, il ne parle pas de lui à la première personne, mais on sait qu'il parle de lui. Je connais un homme en Jésus-Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Il fut ravi dans le paradis, il entendit des paroles mystérieuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et saint Paul est extrêmement discret sur cette apparition qu'il a eue. Est-ce qu'il a été emmené d'une certaine façon au ciel? On ne sait pas. Mais pour éviter que cette grâce extraordinaire qu'il a reçue, notre Seigneur Jésus-Christ, ne l'enorgueillisse justement, le bon Dieu a permis qu'il ait des tentations terribles. De peur, dit-il, que la grandeur de ses révélations ne m'enorgueillisse. Il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. Là encore, il donne peu de détails. Vraisemblablement, le grand saint Paul devait batailler contre les terribles tentations d'impureté. C'est pourquoi, dit-il, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Le grand saint Paul, qui supplie notre Seigneur Jésus-Christ de lui ôter une tentation très forte, qui, semble-t-il, l'empêche de prier, peut-être le gêne dans sa prédication, le gêne dans son apostolat missionnaire. Et notre Seigneur Jésus-Christ de répondre, « Ma grâce te suffit », le grand saint Paul. Alors, mes bien chers frères, ne nous étonnons pas si nous qui sommes des petites gens, nous ne sommes pas des grands saints comme saint Paul, nous sommes des tout petits chrétiens, nous qui sommes des tout petits catholiques, des petits minus catholiques. Mais ne nous étonnons pas si parfois le bon Dieu, dans sa sagesse, répond à nos prières d'une façon qui ne nous convient pas. Lorsque nous demandons quelque chose à notre Seigneur Jésus-Christ, une grâce particulière, et que Dieu, d'une certaine façon, nous dit « Non, ce n'est pas ce que je veux pour toi maintenant. Ce n'est pas ce que je veux pour toi tout de suite. » Considérons que ce « non », c'est une réponse. Souvent, les gens viennent me voir et me disent, monsieur l'abbé, j'ai prié, j'ai fait des neuvaines, et j'ai pas reçu de réponse. Mais oui, vous avez reçu une réponse, monsieur. La réponse est négative, c'est non. Ah oui, mais j'aurais voulu qu'ils disent oui. Ça, c'est votre volonté à vous. Et quand on prie, la première condition pour prier avec espoir d'obtenir quelque chose, c'est de dire par avance au mon Dieu, que votre volonté soit faite. Même si votre volonté ne me plaît pas, même si votre volonté ne correspond pas à la mienne, c'est facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand il nous demande de faire quelque chose qui nous plaît. Mais souvent, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Il faut méditer sur cette phrase très courte. Gratia meam sufficit tibi. Ma grâce te suffit. Et c'est valable pour nous aussi. Si Dieu a donné des grâces particulières, pas saint Paul pour qu'il supporte sa croix, supporte ses tentations. C'est parce qu'il avait compris, Dieu est tout, Dieu comprend tout, bien mieux que nous. Dieu avait compris mieux que nous, bien sûr, que cette tentation était nécessaire pour que saint Paul devint un grand saint. Et si saint Paul n'avait pas accepté cette croix, il serait peut-être pas devenu saint Paul. C'est pareil pour nous. C'est facile, encore une fois, de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand il n'y a aucune tentation dans la vie de tous les jours et tout baigne dans l'huile, comme on dit vulgairement. Mais le bon Dieu nous demande, eh bien, de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, même dans les pays, dans les temps difficiles. C'est facile d'être un bon soldat en temps de paix. Tous les soldats sont bons en temps de paix. C'est en temps de guerre qu'on voit où sont les bons soldats. C'est facile d'être bon catholique, encore une fois, quand il n'y a pas de tentation, mais c'est dans les périodes de tentation que le bon Dieu peut juger où sont les vrais catholiques et où sont les faux frères. Ceux qui lâchent tout, justement, à cause des tentations. Donc cette phrase, ma grâce te suffit, c'est aussi pour nous, mes bien chers frères, c'est aussi pour moi. La grâce du bon Dieu me suffit, jour après jour. Et le dernier conseil de saint Paul est aussi très important. La force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc volontiers de mes faiblesses, afin que la force du Christ habite en moi. Le grand saint Paul qui se glorifie dans ses faiblesses. Le grand saint Paul qui se glorifie de ses impossibilités à suivre notre Seigneur Jésus-Christ comme il l'aurait voulu lui-même. C'est pareil pour nous. Nous aussi, nous devons nous glorifier dans nos faiblesses. Nous pouvons même aller jusqu'à dire qu'il faut nous glorifier dans nos chutes. Presque, il faut nous glorifier dans nos péchés, à condition de bien comprendre cette phrase. Nous glorifier dans le péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire le péché m'aide, mon péché personnel, m'aide à comprendre que je ne puis absolument rien faire sans notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ sous la forme de Jésus-enfant qui apparaît à Saint Jérôme, à la crèche de Bethléem, et qui demande un cadeau pour Noël. Et alors que Saint Jérôme a tout offert, il a offert tout ce qu'il a, il a offert tous ses livres, il a offert toutes ses œuvres, notre Seigneur Jésus-Christ demande autre chose. Et Saint Jérôme ne sait plus quoi donner, parce qu'il a déjà tout donné. Et réponse de notre Seigneur, donne-moi tes péchés pour que je puisse les repardonner. C'est bien la dernière chose que je penserais à offrir au bon Dieu, à la crèche de Bethléem. Et pourtant, c'est ce que le bon Dieu attend de nous pendant la messe. Que nous offrions au bon Dieu de nouveau nos péchés pour qu'il puisse les repardonner. Une des meilleures façons de se maintenir dans l'humilité, c'est de se glorifier de ses péchés, dans le bon sens du terme, bien entendu. Si je ramène les péchés du passé à ma mémoire, cela va m'aider à comprendre ma misère personnelle, mais en même temps la grandeur extraordinaire de Dieu, la miséricorde extraordinaire de Dieu. Dieu exerce bien plus sa miséricorde avec un grand pécheur qu'avec un petit pécheur. Donc, si je suis un grand pécheur et que Dieu a exercé sa miséricorde avec moi davantage qu'avec un autre à cause du nombre de mes péchés passés, cela ne doit pas me décourager, mais au contraire. Parce que plus j'ai reçu, plus je dois donner. Donc, plus le bon Dieu a exercé de miséricorde à mon égard, plus je dois vivre dans l'action de grâce et remercier le bon Dieu. Et moi aussi, me glorifier de mes faiblesses, me glorifier de mes péchés qui me permettent justement de pratiquer cette vertu d'humilité. Quelqu'un qui a été un grand pécheur peut-être a moins de tentation d'orgueil que quelqu'un qui n'a jamais offensé le bon Dieu. Un soldat qui est tombé très souvent a moins de tentation d'orgueil qu'un soldat qui n'est jamais tombé. Mais Dieu aime davantage un soldat qui est tombé très souvent et qui s'est relevé à chaque fois qu'un soldat qui n'est jamais tombé. Parce qu'un soldat qui n'est jamais tombé n'a jamais dû apprendre à se relever. Au contraire, le soldat qui est tombé souvent et qui à chaque fois a dû se relever, apprendre à se relever, Dieu sait si c'est compliqué, difficile, exigeant. Eh bien, ce soldat qui s'est relevé plusieurs fois dans sa vie de passé pour se rapprocher du bon Dieu à chaque fois, il connaît beaucoup plus la miséricorde du bon Dieu que le soldat qui n'a jamais péché. Alors ouvrons la porte de notre âme, et bien chers frères, à la grâce de cette vertu d'humilité dont je vous parle. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut également comprendre l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile de Saint-Luc au chapitre 8, la parabole du semeur. Elle est très connue, cette parabole. Le semeur sort pour semer sa semence. Il y a une partie de la semence qui va tomber sur le chemin, qui sera foulée aux pieds, est mangée par les oiseaux. Une autre partie tombe sur la pierre, ayant levé, elle sécha parce qu'il n'y avait pas d'humidité. Une autre partie tombe au milieu des épines, et les épines croissantes avec elle l'étouffèrent. Et une autre partie de la semence tomba dans une bonne terre, ayant levé, elle porte du fruit au centuple. Donc le bon Dieu jette sa grâce. Et la grâce, pour qu'elle puisse fructifier, il faut qu'elle tombe dans un champ qui est préparé. La grâce ne détruit pas la nature, dit saint Thomas, l'élève. Donc il faut que notre nature humaine soit préparée à recevoir la grâce du bon Dieu. Et où est supposée tomber la grâce du bon Dieu? Dans mon âme? Est-ce que mon âme est préparée à recevoir notre Seigneur? Est-ce que mon âme est comme un chemin? Est-ce que mon âme est comme la pierre? Est-ce que mon âme est comme les épines? Ou est-ce que mon âme est la bonne terre? À quelques jours du carême, eh bien, chers frères, il est bon de se poser cette question. Dans quel état est mon âme? Essayez, mes bien chers frères, essayons, c'est voilà pour moi aussi, de regarder notre âme et de voir la couleur de notre âme telle que le bon Dieu la voit. Non pas telle qu'elle se reflète à mes yeux, telle qu'elle est en réalité. De voir mon âme telle que le bon Dieu la voit. Je me présente devant le physicien, moi j'ai l'impression d'être en relativement bonne santé, et le physicien fait des examens, il fait des prélèvements sanguins pour voir un petit peu ce qui se passe dans mon organisme, et puis des résultats arrivent. Et je dis au médecin, docteur, moi je suis en bonne santé, hein, pas de problème. Et le médecin hoche la tête et me dit, vous paraissez en bonne santé, mais vous n'êtes pas en bonne santé. Parce que les résultats sont tombés, vous voyez, toutes les difficultés qu'il y a, tous les problèmes qu'il y a. Vous êtes en train de vous écrouler sur plan interne parce que il y a des tas de choses qui vont pas, il n'y a pas d'équilibre dans votre sang. Alors, monsieur, il va falloir faire pénitence. Il va falloir rattraper tout ça, il va falloir prendre les médicaments que je vous donne. Ah, mais je vois rien, moi. Vous ne voyez rien, mais je peux vous assurer que les résultats du bilan sanguin pour vous ne sont pas bons. Et si vous ne faites pas ce que je vous demande, vous ne viendrez même pas me voir dans 2 mois parce que vous serez mort. Alors, vous allez faire ce que je vous demande. Mais vous allez devoir changer de régime alimentaire, vous allez devoir changer beaucoup de choses dans votre vie de tous les jours, justement, pour changer des choses qui sont en train de vous ruiner de l'intérieur, mais que vous ne voyez pas. Et c'est la même chose avec moi. Peut-être que mon âme est comme un chemin. Sur un chemin, il n'y a rien qui pousse, parce que c'est tout sec. Les pieds des passants vont fouler la graine, les oiseaux du ciel vont venir manger la graine, il n'y a rien qui pousse. Ça, c'est, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui écoutent. Les gens qui sont comme ça, ils écoutent un sermon, ils écoutent une prédication, très bien, c'était pas mal. Puis 2 minutes après, ils ont tout oublié. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Que font-ils pour suivre notre Seigneur? Rien. Rien. Ils sont là, puis ils vont nous dire, oui, c'est intéressant. Mais je reviendrai plus tard pour en parler, puis ils ne reviennent jamais. Ou peut-être que mon âme est comme la pierre. Et sur cette pierre, rien ne peut pousser, évidemment, parce qu'il manque d'humidité. Cette pierre, me dit notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont une âme comme la pierre sont ceux qui entendent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au moment de la tentation, ils se retirent. Ça, c'est ceux qui écoutent. Ils sont tout heureux d'écouter, ils ont vraiment la volonté de faire quelque chose, mais dans la pratique, rien ne se fait, parce qu'ils se rendent compte que suivre notre Seigneur Jésus-Christ, ça coûte. Ça correspond, pour ceux qui ont fait les exercices de Saint-Ignace, à ce qu'on appelle les premières classes. La première classe d'hommes, nous dit Saint-Ignace, voudrait se défaire de l'affection qu'elle éprouve pour le bien qu'elle possède et dont elle doit se couper. Afin de trouver Dieu, notre Seigneur, dans la paix, de pouvoir opérer son salut, mais elle n'emploie de fait aucun moyen avant l'heure de la mort. Donc, celui qui a une âme qui ressemble à une pierre, c'est celui qui comprend très bien qu'il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Lui réfléchit déjà un peu, contrairement à celui qui a une âme qui est comme un chemin public. Donc, il se réjouit même, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, il reçoit avec joie les paroles de Dieu. Il n'y a pas de racine. Et au moment des difficultés, parce que la première chose que l'on trouve en suivant notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Hein, celui qui veut venir après moi, nous dit notre Seigneur, qui se renonce, qui prenne sa croix, qui me suive, dès que les tentations arrivent, eh bien, tout le monde s'en va. Comme un troupeau de moineaux qui s'éparpille en piaillant. Ou peut-être que mon âme est représentée par les épines qui croissent avec la semence, qui l'étouffe. Et notre Seigneur Jésus-Christ se donne la peine d'expliquer. Ces épines sont ceux qui ont écouté la parole, qui s'en vont ensuite étouffés par les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie qui ne portent pas de fruits. Si mon âme est comme des épines, ça veut dire quoi? Ces épines représentent, nous disent les pères, les concupiscences. De même que les épines, si vous tombez dans un buisson d'épines, vous ne pouvez plus en sortir tout seul, parce que plus vous cherchez à bouger pour vous en sortir, plus les épines s'enfoncent dans les chairs, dans les muscles. Eh bien, ces épines représentent justement les sollicitudes mondaines, la concupiscence des yeux qui nous pousse à tout avoir, la concupiscence de la chair qui nous pousse au péché d'impureté, et la concupiscence de l'orgueil pour détruire l'humilité. Ça, c'est la deuxième classe. Qui veut détruire cette affection, mais elle le veut à condition de conserver le bien acquis. Elle voudrait amener Dieu à son désir, elle ne peut se déterminer à quitter ce qu'elle possède pour aller à Dieu, quand même ce parti serait le meilleur pour elle. Heureusement, parfois, il y a quand même des âmes qui ont de la bonne terre. Et donc, dans cette bonne terre, la semence peut lever et porter du fruit au centuple. Ceux qui tombent dans la bonne terre, nous dit notre Seigneur, sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. Quelle est la condition pour que ce fruit germe? L'humilité. Toujours pareil, l'humilité. Et cette humilité va engendrer la charité. Et ce fruit qui fructifie, cette semence plutôt qui lève, qui va devenir une plantule, puis un petit arbre, un arbuste, qui va donner des fleurs, puis des fruits, parfois au 30%, parfois à 60%, parfois au 100%. Donc c'est la vertu de charité. L'humilité de la terre bien préparée qui donne la charité, à savoir le fruit, 30, 60 ou 100%. Donc demandons, mes bien chers frères, cette grâce de savoir écouter, de savoir retenir ce que nous dit notre Seigneur, pour que nous puissions agir, et en agissant correctement, selon sa sainte volonté, donner du fruit. Donner du fruit. On pourrait, j'ai pas trop le temps maintenant parce que je veux pas allonger le sermon, mais il est intéressant aussi d'utiliser pour expliquer des textes des textes choisis par la Sainte Église pour un dimanche, de voir aussi le bréviaire qui correspond ce dimanche. Et en ce moment, au bréviaire, on a l'histoire de Noé. Et l'arche de Noé, qui contient les 8 personnes qui vont être sauvées, hein. Tout le monde va mourir sur le monde, sauf Adam, son épouse, ses 3 enfants et leurs épouses, 8 personnes. Eh bien, l'arche de Noé était nommée par les pères le séminarium. C'est-à-dire celui, la chose qui porte la semence. Qui porte la semence de quoi? Qui porte la semence de vie. Le séminarium, c'est ça. Le séminarium, c'est ce qui donne, c'est ce qui porte la semence, la vraie semence. Eh bien, il faut que mon âme soit comme l'arche de Noé. De même que Adam a eu son côté ouvert pour en tirer la première femme. De même que l'arche va ouvrir son côté pour en faire sortir la colombe qui va revenir avec un rameau d'olivier pour indiquer que les conséquences de la colère de Dieu s'effacent. De la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ ouvrit son cœur aussi sur la croix pour en faire sortir l'eau et le sang, c'est-à-dire les sacrements. De la même façon, moi aussi, je dois ouvrir le mien, je dois ouvrir mon âme. Je dois ouvrir mon cœur pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir planter sa semence dans mon cœur. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à ce que notre âme soit comme un champ bien planté, bien préparé. Que je puisse, avec son aide, ôter les pierres du champ, que rien à faire là. Ôter les insectes qui vont manger la semence, peut-être arroser. Protéger du soleil la plantule qui sort de terre, afin que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir et considérer cette âme comme son champ à lui, et y voir du fruit, et permettre qu'il y ait un fruit abondant. Et ce fruit abondant, abondant, avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, m'adressera au ciel. C'est ce que je vous souhaite pour tous et chacun d'entre vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.